La douleur détruit, la douleur abîme, la douleur rend la vie elle-même insupportable. Donc la paix ne peut en être que si la personne qui souffre et celles qui sont avec elle puisent ailleurs ou puisent dans des profondeurs une énergie qui n'est pas entièrement détruite par la douleur. La douleur consomme de l'énergie, on le voit bien à l'hôpital quand on visite des malades, on le voit bien au cimetière quand on raccompagne des gens qui ont vécu un décès, on le voit bien dans la guerre quand la violence s'abat. La douleur détruit. Mais l'être humain possède des ressources inouïes qu'aucun animal ne pourrait avoir, qui viennent de ses idéaux, qui viennent de ses raisons de vivre, qui viennent de sa foi et qui viennent de Dieu lui-même.
Est-ce que le pardon est la seule voie pour arriver à cette paix?
Le pardon est impossible aux hommes. Dieu seul peut pardonner, comme le fait comprendre toute l'Écriture sainte. Mais il est l'idéal par où on se sort de la violence que l'on subit. Il y a la souffrance que l'on subit et la violence qu'on impose aux autres. Personne n'est complètement innocent. Alors le pardon est l'idéal qu'il faut désirer parce que sinon je reste dans la vengeance. Et la vengeance, c'est le mal qui m'a détruit. Le mal que l'on m'a fait me rend moi-même mauvais. Et donc la victoire du mal est totale. Au début, on n'a pas envie de pardonner, bien sûr, et peut-être que certains n'y arriveront jamais. Le but n'est pas de faire peser sur les victimes un devoir de plus qui serait le devoir de pardon. Ça n'a pas de sens. Mais sortir, par exemple, de la vengeance est déjà demander la justice. Il faut appeler un chat un chat. Il faut nommer le mal. Il faut dire que ceci est un génocide, que ceci a été une violence. Donc la vérité, la justice sont déjà, au fond, des actes d'amour. C'est renoncer à devenir soi-même violent, à rendre un coup, ou 10 coups pour un coup. Alors que dès qu'on nous fait mal, on a envie d'être violent. Alors le pardon, c'est l'ultime chemin, mais il est déjà dans le cœur depuis le début, quand on ne s'est pas laissé détruire. C'est dire l'autre vaut mieux que le mal qu'il m'a fait. L'autre aussi est un être humain, ou l'autre aussi est un enfant de Dieu. Lui aussi est blessé. S'il est blessant, c'est qu'il est blessé. S'il reconnaît son tort, qui suis-je pour l'enfermer dans son passé?
Le pardon, vous l'avez évoqué au travers de Dieu. Les violences, malheureusement, touchent aussi bien les croyants que les non-croyants, aussi bien du côté des victimes que du côté, on va dire, des agresseurs. Comment on peut trouver, ou quelle est la valeur qui pourrait transcender un peu tous ces clivages pour amener à la paix?
Il y avait depuis la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier depuis la Shoah, un chemin qui se dessinait, qui, sans relativiser du tout la différence entre les croyants et les incroyants, montre que les uns et les autres sont pareillement convoqués, invités à changer à cause de la souffrance. Les croyants doivent analyser ce qui, dans leur compréhension religieuse de la souffrance, ne va pas, n'est plus crédible ou ne l'a jamais été. Les incroyants ne peuvent pas dire, la souffrance est bien la preuve que Dieu n'existe pas, donc nous avions raison. Ça serait du niveau d'une cour de récréation, ça n'a pas de sens. Les uns et les autres doivent comprendre que le problème du mal et de la souffrance n'est pas un problème théorique, mais un problème pratique. Ce qui rend la souffrance horrible, c'est qu'elle est une réalité pratique. Si elle n'était qu'une idée, ça serait plus facile de s'en sortir. Et donc la réponse à un problème, à un mystère, à un scandale pratique ne peut être qu'un acte. Et donc c'est l'amour qui est la réponse à la souffrance, qui peut évidemment être reconnu par des incroyants comme étant la charité chrétienne et imité par eux dans un combat politique, par exemple, un combat pour la justice, un combat pour l'égalité des droits, un combat pour changer les lois en faveur des personnes handicapées, comme le cas de Julia Kristeva, cette femme incroyante, invitée par Benoît XVI aux rencontres d'Assises. Alors, il y a encore une autre valeur qui unit croyants et incroyants dans le combat contre la souffrance et pour le pardon, c'est la transcendance de la vie humaine, la reconnaissance qu'on n'est pas des animaux comme les autres. Ce n'est pas tous les incroyants qui disent ça. Mais donc nous avons une alliance particulière avec ceux des incroyants qui sont prêts à reconnaître que la culture humaine, ce n'est pas la même chose que la zoologie des batraciens ou des girafes. Qu'il y a en l'homme une transcendance, qu'elle soit métaphysique ou pas, n'est pas important à ce niveau-là, et que nous avons ensemble à respecter toute vie humaine et la vie humaine quelconque. Pas simplement les grands héros, pas simplement les grands médecins, pas simplement les grands militaires ou chefs d'État. C'est la vie humaine quelconque qu'il faut défendre comme un trésor.
Vous avez évoqué le cas des personnes handicapées. Selon vous, la violence qu'ils ressentent dans leur corps ou dans leur âme, la violence que leur fait la société qui ne les regarde pas ou qui les exclut, est-ce que là aussi il y a une voie à entendre pour aller vers plus de paix au sens de plus de sérénité dans notre société?
Mon père spirituel depuis presque 20 ans est un prêtre aveugle et pourtant il voit mieux que moi sur beaucoup de choses. Donc la personne qui vit un handicap, elle n'est pas une personne qui doit faire tout l'effort pour s'adapter à une société qui serait seulement pour les bien portants, et puis pour les autres, on met quelques ascenseurs en plus, ou on abaisse la porte des autobus ou quelque chose. Non. Ce qui fait la dignité d'une société, c'est de permettre à tous les citoyens, et tout être humain, fils d'un être humain, est un citoyen, de pouvoir, avec les capacités qui sont les siennes et avec les aides que la société peut donner, être pris en charge. Mais il y a, et c'est une incroyante qui me l'a fait remarquer, dans la mission qu'elle avait faite pour Jacques Chirac en France, Julia Kristeva disait « La prise en charge, c'est déjà beaucoup, mais ça enferme toujours les personnes handicapées dans une catégorie spéciale, ceux qu'on aide, et ça enferme aussi ceux qui les aident dans une catégorie spéciale, qui deviennent motivés par un combat particulier qui est le leur pour le respect des droits des personnes handicapées. » En fait, nous avons découvert, et je pense que c'est aussi une découverte d'après la Shoah, que autour de la question des personnes handicapées, et notre Dieu est aussi un Dieu qui a connu le handicap sur la croix, nous découvrons aujourd'hui que ces personnes nous révèlent ce qu'est l'essence de la société humaine, ce qui est le plus important dans la démocratie, qui est l'attention aux vulnérabilités de l'autre, l'attention à ce que l'autre peut faire de ses vulnérabilités. Et c'est pour ça que les victimes ont un statut particulier, condition qu'on les conduise à désirer la justice et non pas la vengeance, et à désirer le pardon et non pas simplement la justice. Il y a une découverte extraordinaire qui peut se faire, et les personnes handicapées sont un trésor pour cela. Il ne faut pas exiger d'elles qu'elles deviennent toutes champions de course à pied ou champions d'échecs. Chacune est à respecter dans sa personnalité et son histoire, et les familles sont à aider, bien sûr.